Je les entends congolais avec Jacqueline Kuba, Kamanga.
Merci pour le relais. Bonsoir. Deux thèmes au centre du débat dans cette émission au dialogue entre Congolais. D'abord, accusé de détournement des fonds destinés aux entités territoriales décentralisées dans le cadre de la rétrocession, le gouverneur de province proteste et rejette les chiffres avancés par la LICOCO, la Ligue congolaise de lutte contre la corruption. Comment le gouverneur se justifie-t-il? Nous le saurons dans cette émission. Et un deuxième thème, processus de transformation des ex-groupes armés en partis politiques. 6 groupes sur 13 anciennes milices ont déjà déposé leur dossier au ministère de l'Intérieur, alors que d'autres trouvent les frais d'agrément trop élevés qu'attendent ces groupes armés du gouvernement central. Nous en parlons avec, pour invité, Julien Paloukou, le gouverneur du Nord Kivu et rapporteur de la Corporation de gouverneurs de la RDC, Ernest Mpararo, président national de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, la LICOCO. Vous êtes au studio, Ernest, bonsoir.
Bonsoir.
Et monsieur le gouverneur, je pense que vous êtes en ligne. Bonsoir, monsieur Julien.
Oui, bonsoir, monsieur Julien.
Voilà, il y a maître Soudi Alimassi qui nous revient aussi, le expert au ministère de l'Intérieur et chef de section de questions juridiques et réformes institutionnelles à la cellule technique d'appui à la démocratie, plutôt à la décentralisation du gouvernement central. Didier Bipatili nous rejoindra, dans la deuxième partie de cette émission. Didier Bipatili, vous le savez, il est membre du comité national de suivi des accords de Goma et porte-parole des ex-groupes armés du Nord Kivu. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Accusé de détournement des fonds destinés aux entités territoriales décentralisées dans le cadre de la rétrocession, le gouverneur de province proteste et rejette les chiffres avancés par la LICOCO. Alors, monsieur le gouverneur Julien Paloukou, dans le communiqué que vous avez publié, ou d'ailleurs vous prenez un peu à partie Radio-Capi, ça se met une parenthèse, on va pas y revenir, hein. La vérité est que des gouverneurs étaient invités à ce débat, le premier, ils n'ont pas accepté d'y participer. Nous bouclons la parenthèse, mais pour revenir à ce communiqué, vous dites, je vous cite, les allégations illégales et mensongères publiées par la Ligue, donc la LICOCO, vous les récitez, Julien Paloukou, vous dites que la LICOCO a mal interprété le rapport de la Cour des comptes se limitant à des tableaux muets. Ça rentre dans votre communiqué, Julien Paloukou, vous les retrouvez, n'est-ce pas?
Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord commencer par saluer le peuple congolais qui a été profondément touché par des accusations graves vis-à-vis des députés provinciaux et des gouverneurs de province que le peuple a élu il y a 2 ans. Et l'occasion là qui m'est offerte maintenant, ce n'est pas en qualité de ce traditionnel invité de Radio Okapi, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paloukou, c'est maintenant le porte-parole, le rapporteur de l'ensemble des gouverneurs de la République démocratique du Congo. C'est donc en cette qualité que j'interviens dans cette émission, monsieur le journaliste.
Voilà.
Alors, je voudrais donc vous dire que nous avons rejeté, et avant même d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais solliciter votre indulgence pour que vous nous accordiez le temps qu'il faut, parce que vous avez consacré 45 minutes en train de faire des diffamations sur le gouverneur, en train de faire des dénonciations calomnieuses sur nous. Permettez donc qu'à cette occasion, nous ayons le 80% de temps de démontrer efficacement le fausse contenu dans la publication qui a été faite par M. Mpararo, que j'aurais bien voulu connaître, d'ailleurs je le connaîtrai quand il sera à tout ça.
Ici on peut gagner le temps, monsieur le gouverneur, nous avons 2 thèmes, déjà il ne sera pas possible donc d'avoir 45 minutes, mais allez-y déjà, profitez de ce temps.
Le premier élément important, parce qu'il y a deux vices, il y a le vice de forme et le vice de fond. Sur le plan de la forme, vous savez que l'article 178 qui institue la Cour des comptes dit clairement que c'est de son droit qu'elle doit contrôler les provinces. Et l'article 180 renseigne en disant que la Cour des comptes doit publier chaque année un rapport qui est remis, et là j'insiste, un rapport qui est remis au président de la République, au Parlement, au gouvernement, et ce rapport doit être publié au journal officiel. Ce qui nous a profondément touché, c'est quoi? C'est que la Ligue congolaise pour la lutte contre la corruption a pris dans le pipeline un rapport qui devait quitter la Cour des comptes vers la présidence de la République. L'extrait de pipeline est commencé à le publier alors qu'il n'est revêtu d'aucune qualité de publier un rapport qui est dans le pipeline. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que effectivement la Ligue a donné des chiffres que lui-même ne s'est pas interprété parce qu'il n'a pas participé au travail de la Cour des comptes. La Cour des comptes qui a audité les provinces n'était pas à la fin de sa mission. Elle devait auditer le gouvernement central, elle doit auditer l'Assemblée nationale, elle doit auditer le Sénat. C'est avec les trois données que la Cour des comptes doit produire un rapport qui donne la gestion comparative des institutions de la République et devoir donner des observations pour que le chef de l'État reçoive la manière dont l'État est en train d'être géré par les institutions de la République.
Le
président de la République a reçu rapport qu'il peut instituer une commission qui vérifie les allégations contenues dans le rapport, et qu'à la fin, il le publie maintenant au journal officiel, et là, il devient un rapport public que tout le monde peut produire et qui est opposable à tous.
Monsieur le gouverneur, excusez-moi, parce que c'est une émission de débat, on ne va pas vous laisser seul continuer à parler. Donc déjà, à quel niveau, pour vous, vous êtes choqué que, à travers la Likoko, la population congolaise soit au courant des chiffres, de la façon dont vous gérez notamment ce fonds de la rétrocession?
Déjà là, c'est un premier vice, parce que là, le rapport n'est pas encore public. Est-ce qu'il pouvait recevoir d'autres amendements à la suite de celui qui devait le recevoir? Maintenant, l'observation des fonds, c'est lequel? C'est que la Ligue nous accuse, nous gouvernants, ce qui est très grave, d'avoir détourné les rétrocessions en 2007 et en 2008, alors que fondamentalement, il y a une loi du 7 octobre 2008 qui définit la quantité que les provinces devaient donner aux ETD. Et cette loi, c'est l'article 115. Dit clairement que les provinces doivent donner 40% aux ETD. Malheureusement pour cette Ligue qui a publié le rapport, la loi devait entrer en vigueur 30 jours après sa publication au journal officiel, c'est-à-dire en novembre 2008. Ce n'est qu'en novembre 2008 que donc les provinces étaient dans une obligation légale de pouvoir donner aux ETD le pourcentage.
Alors,
nous avons détenu les rétrocessions en 2007 et en 2008, période au cours desquelles la loi n'était pas encore sortie pour qu'on connaisse la quantité à donner aux ETD. Voilà ce que nous disons, déclaration illégale et mensongère et dénonciation calomnieuse que nous devons produire ultérieurement pour que la Ligue justifie devant le peuple congolais comment les gouverneurs ont détourné un montant qui n'était pas connu par aucun texte légal.
Voilà, monsieur le gouverneur, on va...
La deuxième observation, il peut répondre pour que j'en vienne à la troisième grande observation.
Merci. Merci de votre souplesse, monsieur le gouverneur Julien Paluku. On va directement donner la parole à Ernest Pararo. Vous allez répondre.
Oui, monsieur le journaliste, merci beaucoup. Mais nous sommes tellement choqués par les explications du gouverneur, parce qu'il oublie que l'article 178 qu'il avance dit il est institué en RDC une cour de compte. La cour de compte relève de l'Assemblée nationale. Et à l'article 180, la Cour des comptes publie chaque année, donc un rapport annuel, chaque année, pas un rapport circonstanciel comme le rapport qui a été commissionné par l'Assemblée nationale à la Cour des comptes. Le présent rapport sur les rétrocessions, c'est un rapport circonstanciel, ce n'est pas un rapport annuel qui doit être publié chaque année et au journal officiel. Ce n'est pas la première fois que la Cour des comptes publie des rapports circonstanciels. Vous vous souvenez qu'en 2007, tout juste à l'entrée de Mouzito au pouvoir, M. Mouzito, alors ministre du Budget, il avait commissionné un autre rapport d'audit à la Cour des comptes pour demander, pour savoir comment est-ce que le budget de l'État a été exécuté. Le rapport ne concernait que de décembre 2006 jusqu'en février 2007.
Bon, on va essayer d'avancer, Ernest Campararo, parce que là, nous courons derrière le temps.
Moi, j'ai une minute, il a fait 5 minutes.
Ouais, il pourra toujours vous dire que la première émission, vous, vous étiez là, lui n'était pas là. Alors là, vous vous dites que c'était un rapport circonstanciel, là, vous lui avez répondu. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire lorsque Julien Paloukou dit que les chiffres que vous avancez, c'est des mensonges?
Monsieur le gouverneur devrait nous prouver en quoi les chiffres que nous avançons sont des mensonges. Il devrait venir à la radio Capi et, à la population congolaise pour dire, par exemple, sur le Nord Kivu, que non, moi, en tant que gouverneur du Nord Kivu, sur 2007, j'ai reçu l'argent, j'ai le tableau ici, j'ai eu 2 milliards, et sur les 2 milliards que nous avons eu, sur les 2 milliards de francs congolais que nous avons eu, nous avions donné à Karisimbi X montant, à Nyiragongo Z montant, à la mairie A montant, aux collectivités du Nord qui vous aide montant, ce qui n'a pas été fait. Donc, nous persistons et nous disons que les chiffres que nous avançons sont des chiffres vrais.
Voilà, vous avez répondu au gouverneur. On va juste laisser d'abord Maître Soudi aussi et placer un mot, Maître Soudi.
Merci beaucoup. Oui. Ma petite réaction est celle de dire, parce que vous vous souvenez, à l'émission passée, nous avons dit, en ce qui concerne la question des chiffres, si l'ONG qui a avancé des arguments autour desquels le gouverneur aurait détourné a des preuves, c'est que cette réaction n'était pas une bonne réaction en rapport avec le fonctionnement des entités territoriales décentralisées, notamment en ce qui concerne le secteur de Sefri et toutes les communes qui sont en dessous de la direction du gouverneur de province.
Donc là, vous parlez de la réaction du gouverneur.
Mais la réaction du gouverneur en ce qui concerne les chiffres, et ne peut être valable qu'en regardant le rapport de la Cour des comptes. C'est la Cour des comptes qui est passée par là. L'argument selon lequel l'ONG est entré à mi-chemin pour récupérer le rapport de la Cour des comptes semble aussi être valable parce que ce rapport doit être publié au journal officiel avant de faire tout autre commentaire là-dessus. Mais ce qui est vrai est que sur le plan de fonctionnement, bien que cela ne soit pas aussi valable pour toutes les provinces, il y a un certain nombre de nos provinces qui posent des problèmes réels en ce qui concerne la répartition au niveau des entités culturelles décentralisées. Cette question, nous l'avons relevée l'autre fois, et que c'est un problème réel. Nous avons voulu faire la différence entre tous les fonds qui sont destinés aux investissements, c'était la grande discussion de l'autre fois, et les fonds qui sont destinés au simple fonctionnement du niveau provincial. J'ai relevé l'autre fois que la province était un niveau intermédiaire et que la rétrocession, le mécanisme par lequel la rétrocession devait atteindre le gouverneur de province, le gouverneur aussi devait les utiliser pour que l'argent arrive au niveau de la base, soit que le développement commence à la base. J'ai parlé de cette question l'autre fois. J'aimerais que le débat ne soit pas plus sur le plan de la forme ou de qu'on évite à parler de chiffres et de confirmer la question du détournement, que nous parlions plus sur la question du fonctionnement.
Mmh.
Est-ce que réellement les gouverneurs de province font parvenir la part de la répression due aux entités territoriales décentralisées?
Si
on peut recadrer le débat à ce niveau, parce que nous pouvons bien évoluer.
Oui, mais pour celui, c'est justement la question que m'en vais vous poser au gouverneur, Julien Paloukou, ça résout aussi ce que a dit Ernest Campararo, président de la LICOCO, monsieur le gouverneur. Est-ce que vous pouvez dire, au-delà de votre démenti, que vous faites parvenir justement les fonds que vous recevez du gouvernement central aux ETD, entités territoriales décentralisées du Nord Kivu, par exemple?
C'est effectivement la grande question qui va faire l'objet du débat. Avant de répondre, je voudrais rappeler aux deux intervenants que les territoires et les districts ne sont pas des entités territoriales décentralisées pour devoir bénéficier de la rétrocession. Ce sont des entités déconcentrées qui doivent bénéficier d'une dotation, soit du gouvernement central, soit du gouvernement provincial. Ça, c'est un. De deux, moi, je voudrais que M. Mpararo, qui est dans ce studio, lise clairement la loi portant budget 2007, la loi portant budget 2008. Moi, j'ai eu l'avantage de lire ces deux lois. Voici ce que disent ces deux lois. Dans l'espace arithmétique que je dois vous dire, parce que je ne dois pas tellement vous embrouillez avec les chiffres,
oui.
Dans les budgets qui sont, dans les recettes qui sont à caractère national, le budget 2007 prévoyait 883 milliards de francs congolais. Et selon le rapport qui a été publié par la Ligue, les provinces ont reçu au total 48 milliards de francs congolais. Lorsque vous faites la proportion, la part de 48 milliards dans les 883 milliards, vous trouvez que la part de ces 48 milliards cités par ce métier occupe 5% du budget de l'État au terme des recettes à caractère national.
Est-ce que vous pouvez répondre
en 2008, le budget en termes de recettes nationales était de 1 milliard 211 milliards.
Là, on se perd.
Et ce que nous avions reçu selon le rapport d'Impararo, c'est 127 milliards.
Mmh.
Et ça représente 10% du budget de l'État. Alors, nous qui avions reçu 5% en 2007, selon ce rapport, nous avions donné aux ETB 12,75%. Nous qui avions reçu 10% à 2008, nous avions donné, selon ce rapport, 19% aux ETB.
Mais qu'est-ce que vous avez donné, vous, concrètement?
Oui, qui dit que nous avons détourné.
Mais vous,
nous qui avions reçu 5%, comment nous avons détourné quand nous avons donné 12% aux ETB, alors que nous avions puisé dans les recettes d'intérêt local pour devoir faire fonctionner les ETB. Voilà là où nous nous en prenons à ce rapport, où nous avons dit dans notre communiqué de presse que M. Mpararo s'est empressé effectivement à publier un tableau dont il n'avait pas la parfaite connaissance et qui devait consulter le budget de l'État 2007, le budget de l'État 2008, pour voir d'abord quelle est la part des recettes à caractère national dans ce budget et que représente ce que les provinces ont reçu de la part du gouvernement central pour mesurer les proportions.
Oui,
c'est un débat tellement économique que dans le commun des mortels, on ne peut pas comprendre tout ceci pour monsieur le journaliste.
Vous vous dites que vous avez donné tout ce que vous n'avez reçu, alors que des informations qui nous viennent, notamment de Massissi, Rutshuru, à l'Italie, là, on nous dit que vous ne donnez pratiquement rien.
Oui, c'est là peut-être la question. Quand on dit qu'on ne donne rien, il faut consulter le tableau. On est en train de donner effectivement proportionnellement à ce qu'on reçoit. Si on reçoit 5% du gouvernement central, vous voulez que les provinces donnent combien? Elles donnent proportionnellement à ce qu'elles reçoivent. Et la première précision que les provinces doivent donner, c'est qu'en 2007, il y avait installation des institutions provinciales, à savoir le gouvernement provincial qui n'existait pas, à savoir les assemblées provinciales qui n'existaient pas. Et je dois vous dire, Mpararo qui est dans le studio, doit consulter le gouvernement si une seule province a eu une dotation pour l'installation de deux institutions provinciales dans cette province pour devoir démarrer. Je crois que c'est à force de toutes ces petites dotations qui arrivaient avec les recettes locales que les gouvernements provinciaux avec les assemblées provinciales se sont installés pour que l'État congolais puisse avoir une forme telle qu'elle présente aujourd'hui. Je crois que c'est là l'inquiétude que nous avons soulevée pour dire, et c'est une ingratitude pour des gens qui commencent à piquer des rapports, je ne sais pas, au secrétariat, et vouloir en faire une grande propagande pour vilipender le gouvernement de province qui est consacré d'énormes sacrifices pour devoir permettre que l'État congolais aujourd'hui puisse avoir un nom à travers l'activité qu'ils sont en train de faire dans l'ensemble de la République.
Avec ces paroles. Monsieur le journaliste, quand vous entendez, le gouverneur n'a rien apporté de nouveau sur ce que nous avions dit. Vous lui avez posé la question, qu'est-ce que lui a donné à ses collectivités, à ses chefferies, à ses quartiers du Nord Kivu? Il n'a rien répondu. Je prends l'exemple de Kinshasa. Kinshasa a reçu 14 milliards. Et sur les 14 milliards, Kinshasa n'a rien rétrocédé à toutes les communes, à toutes les chefferies et les collectivités de la ville de Kinshasa.
C'est seulement en 2009. Hein,
en 2009, on commence à donner quelque chose.
Oui, et c'est irrégulier.
Oui.
C'est les informations que j'ai.
Merci beaucoup.
Oui.
Et maintenant, nous, la question que nous posons, qu'est-ce que le gouverneur du Nord Kivu a fait de 2 milliards 76 millions 850 508 francs qu'il a reçu en 2007? Ils se sont partagés entre lui et ses ministres et une petite partie à l'Assemblée provinciale.
Ah, il faut qu'ils répondent là. Oui, M. Mbana, vous répondez et
donnez-nous
le Sidi va rebondir.
Je me réponds comme ça. Lui-même a produit un tableau dans lequel il dit que dans les 2 milliards que j'ai reçus, je donnais 14,65%. C'est son tableau lui-même qui lui répond. Comment veut-il me poser une question, moi qui ai reçu 5% à l'Assemblée au prorata des provinces, que j'ai donné 14,65% aux ETD, et il veut déclarer devant l'opinion nationale que le gouvernement du Nord Kivu n'a rien donné. On ne sait pas si c'est peut-être une insuffisance de connaissance des chiffres, qu'il doit continuer à persévérer dans un mal qui pourtant lui est opposé à travers le tableau qu'il a livré au public. Quand quelqu'un reçoit 5 et il donne 14%, et il ne peut pas comprendre, comme s'il y a une formation de science, seulement qu'il n'a pas la compréhension des chiffres. Même le petit enfant de l'école primaire comprendrait qu'à recevoir 5 et on donne 14, c'est qu'on a dépassé les limites de ce qu'on a reçu.
Monsieur le gouverneur, il y a des auditeurs, tels que Pierre Mbanda, qui nous écrit de Denis, la province d'où vous intervenez, vous êtes d'ailleurs le patron, non, il exige une enquête objective pour arriver à punir sévèrement les gouverneurs qui se seraient enrichis avec l'argent des provinces, remettant en cause la politique de proximité qui a motivé la mise en place des gouvernements provinciaux. Julien Panoukou, est-ce que vous êtes prêt à ce qu'il y ait une enquête ouverte pour vérifier qui donne quoi de cet argent de rétrocession parmi les gouverneurs?
L'enquête, on ne l'a jamais refusée, et d'ailleurs, ça va permettre la République de pouvoir connaître efficacement ce que l'on est en train de faire. Lorsqu'on dit que le gouverneur doit être audité, il y en a qui croient qu'il y a un gouverneur qui tremblerait de voir une commission d'enquête descendre pour vérifier ce qui est en train d'être fait. Je crois que, je l'ai dit dans le communiqué de presse, ceux qui croient que le gouverneur a peur de l'enquête, c'est plutôt eux qui ont peur, parce que lorsqu'on va comparer les chiffres pour mesurer le degré du détournement dans la République, les gouverneurs seront loin de ceux qui détournent le bien dans la République.
Je
dis dans le communiqué que le coup de balai que le chef de l'État a commencé dans la magistrature est en train d'avancer. Et les gens ont peur que le coup de balai ne les atteigne. C'est comme ça qu'ils veulent orienter l'attention du chef de l'État vers le gouverneur, alors que le détournement a des paliers. Et ces paliers devraient être connus clairement par des enquêteurs objectifs qui devraient être institués pour qu'on établisse les responsabilités de la dysfonctionnement de l'État. Parce que les gens veulent faire croire que si l'État serait en dysfonctionnement, c'est à la suite de mieux que reçu par le gouverneur de province, alors que statistiquement, je suis en train de vous démontrer que représente ce mieux-là que les provinces reçoivent et que représente ce qui serait resté sur ce mieux que les provinces ne reçoivent pas et que l'on ne voit pas
Je sais que Julien Panoukou, vous ne demandez pas au président de la République de passer son balai loin de vous.
Non, c'est-à-dire, si un gouverneur est passible de détournement, je le dis, il est congolais, il est passible de toutes les pommes. C'est-à-dire, ce que je suis en train de dire, le démenti qu'on est en train de faire, c'est de dire que la lecture qu'un Bararo a fait des chiffres, c'est une lecture non comprise par lui-même.
Voilà. On va donner...
Donc on lui oppose la loi de 2007, la loi de 2008, avec les chiffres en actif.
Vous l'avez dit.
Si vous allez retirer au niveau des bulletins, il comprendra mieux comment c'est que la répression de notre pays et qui fait quoi par rapport à ce chiffre-là.
Un
recoupement de 10 dollars au journal officiel, ça va nous permettre d'être
éduqués. Merci, M. le gouverneur. Je rappelle que vous êtes porte-parole de tous les gouverneurs dans cette émission. Maître Soudi.
Merci beaucoup. Moi, j'avais une observation à faire au gouverneur de province à travers ce communiqué commun. Je crois qu'il est question de responsabilité. Il est question de gestion. La gestion, on ne peut pas répondre sur sa responsabilité individuelle à travers un communiqué qui produit une responsabilité commune. Comme il s'agit de responsabilité en matière de gestion, moi je le conseille que très prochainement, qu'il laisse chaque gouverneur répondre de sa gestion. Je connais le cas de plusieurs provinces où la question de rétrocession au niveau des ETD pose réellement problème. Il y a d'autres provinces à problème.
Vous pouvez les citer.
Qui peut-être ont des justifications valables sur l'utilisation de ces fonds-là à un certain niveau. Alors, lorsqu'il faut répondre à travers un communiqué commun, sur ce type de responsabilité, c'est très dangereux.
Donc, il y a même des fautifs qui peuvent se cacher derrière ce communiqué.
Effectivement. Parce qui ne doit répondre à sa gestion, parce que toutes les lois sont claires là-dessus. S'il y a un mécanisme utilisé à tel niveau, ce mécanisme doit être répercuté à tel autre niveau. Nous sommes en train d'assurer un développement à la base. Je crois que nous devons nous référer à ce type de procédure et non répondre collectivement tel qu'on a présenté cela à travers un communiqué courant. C'est un conseil que je donne aux gens à répondre.
Voilà. On va prendre encore de votre réaction. Il y a Pierre qui nous écrit de Bukavu. Il se demande pourquoi le gouverneur ne communique pas assez sur les finances et attend d'être dénoncé pour réagir. Pourquoi l'on ne prendrait pas l'exemple de la Monique, ça c'est l'éditeur qui le dit, qui communique chaque mercredi, mais nos gouvernements presque jamais. Emina Bassengue de Mbandaka, lui, s'étonne de ce que le gouverneur conteste le rapport de la Likoko. Il affirme qu'à l'Équateur, le gouverneur autorise les députés provinciaux d'aller retirer les fonds destinés aux entités territoriales décentralisées pour en faire autre chose. Il cite le cas de Matanza et Bomongo. Vous dites un mot, Ernest Impararo, et puis on va revenir à Julien Paloco.
Ce que nous vous disons, c'est que le gouverneur avance comme argument que, aussi longtemps qu'il n'y avait pas une loi fixant la répartition de l'argent aux ETD,
2007 et 2008,
il n'était pas contraint de donner cet argent aux ETD. Si nous allons avec le même principe, cela veut dire que le gouvernement, en 2007-2008, le gouvernement central, n'avait pas aussi droit d'envoyer de l'argent au gouvernement provincial, étant donné qu'il n'y avait pas cette loi-là. Mais, nonobstant cela, le gouvernement central a envoyé de l'argent, petit que ce soit, il a envoyé de l'argent aux provinces. Lorsqu'on envoie de l'argent aux provinces, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que sur les 5%, qui devait 100% aux provinces, qu'on a envoyé aussi sur vous, 95% ou 80% est partagé entre l'exécutif provincial, dont le gouverneur du Nord-Kivu, et l'Assemblée provinciale. Si le gouverneur était plus gestionnaire comme il est en train de le dire, il devrait prendre les 14% donnés aux ETD, partager 14% à son gouvernement exécutif et donner 14% à l'Assemblée provinciale. Cela serait justice faite à tout le monde. Mais ils se sont partagé l'argent entre l'exécutif provincial et les assemblées provinciales au détriment de ces séries de quartiers qui sont dans la pauvreté la plus totale. Cet argument ne tient pas.
Monsieur le gouverneur, Julien Paloukou.
Voilà encore un argument qui me connaît le texte qui nous régit. Si M. Mparare dit que nous devrions attendre la loi pour recevoir du gouvernement central la rétrocession, pour nous les provinces, la rétrocession se trouve dans la constitution de 2006. C'est-à-dire, nous n'avions pas à attendre la loi de 2008 parce que l'article 165 avait déjà dit clairement que les provinces ont droit, doivent avoir 40% de recettes à caractère national et la retenue doit être faite à la source. C'est la répartition des provinces aux ETD qui a été décidée en 2008. Voilà la précision que je dois lui donner pour que le client ne puisse pas croire que l'argument que j'avais évoqué là valait pour le gouverneur. Voilà encore une déclaration calomnieuse. Il dit que nous nous sommes partagés avec les assemblées provinciales. Le gouverneur répond, comme a demandé l'auditeur, devant l'assemblée. À chaque fois que nous faisons voter un nouveau budget, nous faisons d'abord l'exécution du budget précédent. C'est devant cette assemblée-là, et les débats sont publics, que nous présentons l'état de gestion de nos budgets. C'est très grave que, en fait, les Congolais aient une absence de cette culture de lecture, où on parle de choses qu'on ne maîtrise pas. S'il pouvait assister un jour à la défense du budget, comme il est à Kinshasa, du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, il va voir qu'avant que l'on aborde les questions du budget 2010, parce qu'on va le faire dans quelques jours, on va d'abord présenter l'état d'exécution du budget 2009. Là, il verra qu'est-ce que le gouvernement Kimbuta aura fait à Kinshasa. Il faut faire ça, c'est un exercice que je lui recommande pour qu'il cesse là de débat aussi important comme ce que la radio qui organise, qui est une radio internationale, Il faut délivrer à l'opinion et de distiller dans l'opinion des propos qui ne tiennent pas debout sur le plan des textes qui régissent notre République.
Oui, là, je pense que nous sommes obligés d'abord de nous excuser auprès des auditeurs. Donc, on vous a annoncé deux sujets. Mais nous sommes obligés de poursuivre ce sujet jusqu'à la fin et on reviendra avec Didier Bitaki, qui est un habitué d'ailleurs de cette émission, je sais qu'il va comprendre. On va revenir avec lui pour cette situation de la transformation des autres groupes armés en partis politiques la prochaine fois. Et là, nous poursuivons l'émission justement avec le gouverneur de province qui a été accusé de détournement de fonds destinés aux entités territoriales décentralisées dans le cadre de la rétrocession. C'était par la Ligue congolaise de lutte contre la corruption et le gouverneur justement réagit à travers Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, mais qui intervient ici comme porte-parole de tous les autres gouverneurs. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, vous n'avez pas encore répondu aux préoccupations de ces auditeurs. Il y a notamment Pierre de Bukavu qui demande pourquoi vous, gouverneur, de façon générale, vous ne communiquez pas assez sur vos finances, les finances des provinces que vous aurez.
Oui, le président, j'ai déjà donné une partie de réponse aux questions. C'est-à-dire, la communication sur les finances que nous faisons, c'est fait d'abord à travers l'Assemblée provinciale. À chaque fois, il y a ce qu'on appelle le contrôle parlementaire, qui se fait sur part des questions écrites, des questions orales, des questions d'actualité, des interpellations, mais également à chaque défense du budget, comme la loi portant libre du côté des provinces nous recommande que nous puissions défendre le budget 2010 en cette période de juillet, août 2009, nous allons défendre le budget 2010 après avoir donné un détail sur l'exécution du budget 2009. C'est à cette occasion que nous communiquons sur la manière dont le budget a été géré. Et toutes les autres occasions nous sont offertes. Par cela, je se retrouve avec le besoin de la population. Nous communiquons. Ici, par exemple, chez nous, au Nord Kivu, il y a un espace qu'on appelle le dialogue social. Un espace dans lequel on pose sur toutes les questions qui se posent à la France.
Et
c'est dans cette espace-là que la population peut être informée sur la manière dont le budget est en train de se gérer.
Oui.
Le budget, il est public, il n'est pas caché.
C'est
vraiment pour les gens sachent que le budget national, il est au journal officiel, et le budget provincial, il est dans les bulletins officiels que nous venons de créer. Donc, ce ne sont pas des choses à cacher qui doivent rester entre les mains de certaines personnes comme le pouvoir de certains éditeurs.
Monsieur le gouverneur, vous savez ce que beaucoup disent des assemblées provinciales, la plupart seraient à votre merci, hein, vous le gouverneur.
Le problème, c'est l'interprétation de la loi. Les gouvernements provinciaux votent leur budget, ils votent les émoluments des députés. Aussi bien des députés nationaux que des députés provinciaux, la Constitution est claire là-dessus. Ces députés sont déshonorables. Ils doivent vivre décemment. C'est pas nous qui avons fait la Constitution de 2006. Elle a été acceptée par
la Chambre.
Nous sommes accordés que les députés, je crois au terme de l'article 109 de la Constitution, ont droit à une indemnité équitable.
On vous a compris, c'est
la Constitution qui le dit.
On vous a compris.
Et quand dans le budget, il est prévu cela aux députés qui doivent vivre dignement pour ne pas se faire duper à gauche et à droite, on dit que les gouverneurs ont corrompu les députés. C'est une affirmation très très grave. Et d'ailleurs, à la fin de l'émission, je vais vous dire la décision des gouverneurs par rapport à des affirmations gratuites comme celles-là qui sont pourtant couvertes par des dispositions constitutionnelles.
Je présume que ce serait la justice. Bon, je ne sais pas ce qu'il est présomption. Il y a Willy, cette fois-ci, c'est vers vous, hein, Ernest Pararo, il y a Willy qui vous pose cette question, Willy Bostini, il vous demande comment vous, la Likoko, comment pouvez-vous prouver que ces fonds ont servi aux intérêts personnels des gouverneurs et non à ceux des provinces? Pouvez-vous illustrer le cas de détournement par province?
Effectivement, c'est une très bonne question. C'est ainsi qu'à la première émission, nous avions recommandé, nous avions proposé au gouvernement central de stopper l'envoi de cette rétrocession aux provinces pour constituer une commission d'enquête où la Cour des comptes serait associée, l'Inspection générale des finances serait associée et aller en province pour voir comment est-ce que les provinces, les gouverneurs et les ministres provinciaux ont géré la rétrocession en 2007 et la rétrocession en 2008. Et cela donnerait raison à plusieurs, à la Likoko et aux autres qui insistent et qui affirme que les fonds envoyés en 2007 et en 2008 n'ont pas atteint les communes, les EPD.
Voilà. J'espère que vous serez encore libre, parce que après que le gouverneur Julien Paluku annonce...
Nous n'avons pas peur, monsieur le journaliste. Si monsieur le gouverneur veut nous traduire la justice, il n'y a pas de problème. Nous avons des preuves. Il y a un rapport de la Cour des comptes. Aller voir le rapport des comptes et comparer les chiffres que nous avons avancés avec ce qui se trouve dans le rapport de la Cour des comptes.
Merci, Sylvie.
Merci beaucoup. Moi, je reviens sur la faiblesse de fonctionnement des institutions provinciales. J'ai relevé l'autre fois, à notre dernière émission, que la question de donner ou de rétrocéder à donner la visite PPR décentralisée, au cas où il y aurait des tournements, c'est l'Assemblée provinciale qui devait le constater avant. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que nous avons un taux très faible de contrôle du gouvernement provincial à partir des assemblées provinciales. C'est un fait réel. Mais je crois qu'il faudra saisir l'occasion pour que les assemblées puissent au moins réintégrer leurs attributions constitutionnelles. Parce que tout ce contrôle-là n'existe pas. Et comment on ne peut pas tomber sur des faits qui sont publiés par les organisations non gouvernementales? Ce sont des faits qui devaient être corrigés. Ce qui est vrai est qu'il y a des entités territoriales décentralisées dans certaines provinces qui ne bénéficient pas de ces rétrocessions-là. Nous, ce sont des tapés du temps sur la table. La réforme annoncée par la décentralisation qui est notre constitution, c'est pour promouvoir le développement à la base. Alors, je rappelle aux honorables députés provinciaux qu'ils ont du temps sur la planche. C'est le moment qu'il faut se réveiller pour mettre fin à tous ces débats. Maintenant, on est à la Cour des comptes, c'est comme s'il n'existait pas un mécanisme provincial pour faire face à ces difficultés. Ce bourgmestre-là, ce chef de secteur, ce fruit, même s'il y en a qui ne sont pas encore élus, mais nous devons mettre en place ce mécanisme constitutionnel et légal qui sont déjà en rigueur. Mais si on n'est pas en mesure de le faire appliquer, c'est un problème grave pour le fonctionnement de nos institutions. Le débat que nous faisons, d'abord, devait choquer les assemblées provinciales, parce qu'apparemment, on les ignore maintenant. On va à des instances autres que les attributions propres qui sont les leurs. Vous comprenez cette question-là. Moi, je crois que c'est le moment que les institutions provinciales puissent réellement fonctionner. Et ce temps, je reviens encore à mon premier argumentaire. C'est que les gouverneurs, moi je connais la plupart d'entre eux, je salue d'ailleurs les gouverneurs Paluku en passant, ils doivent cesser de répondre collectivement sur des questions qui engagent les responsabilités des gestions. C'est très grave. Il faut que chaque gouverneur réponde de ce qu'il est en train de faire chez lui. Le chef de l'État, comme l'a dit le gouverneur Paluku, est en train de regarder en tant que garant des institutions. Il ne va pas punir tous les gouverneurs au même moment. Parce que parmi eux, il y en a qui ont réellement commis des fautes. Est-ce qu'on veut envoyer, par exemple, le gouverneur Paluku en tant que rapporteur pour être responsable de ce qu'un autre gouverneur a commis chez lui? C'est là que je ne comprends pas. Mmh. Alors, c'est ça la lecture que je voulais faire à titre de rapport.
Monsieur le gouverneur Julien Paluku, qu'est-ce que vous répondez? Vous devenez le paravent?
Je voudrais dire à M. Foud que nous sommes dans un débat où il doit cesser de dire que c'est comme une intimidation. Je lui rappelle ceci. Le rapport de la Dicoco dit détournement à grande échelle par les gouverneurs de province. À grande échelle. Ce qui est très très grave. Mais moi, je crois qu'il faut donner déjà les arguments importants pour démontrer le fausseté de la Ligue. Je voudrais élever le débat à un autre niveau, monsieur le journaliste.
Mais il y a des éléments.
Moi, je crois que ce qui est important pour notre République, c'est de dépasser la passion et d'aller vers la réflexion.
Oui.
Notre budget, par exemple, est de 2009. Il est de 5 milliards de dollars.
Oui.
C'est là la réflexion où je vais la mener. Ce budget-là, par rapport à une population de 60 millions d'habitants, veut dire ceci, si je fais une réflexion qu'on appelle de nivellement par le bas, c'est que chaque habitant gagnerait normalement 80 dollars par an pour l'ensemble du budget de l'État. Et donc, si on peut dire qu'on distribue 80 dollars à chaque Congolais pendant une année, et que chaque Congolais trace les routes, chaque Congolais veut suivre sa sécurité, chaque Congolais fait ce que la République fait, est-ce que cet argent peut aider à résoudre le problème de la République? Donc, le débat, il est beaucoup plus loin. Parce que même si nous réformons les 40% aujourd'hui, qui n'arrive pas, 40% de 1000, ça sera 400. 40% de 10 000, ça sera 4 000. Mmh. Et le problème de notre pays, c'est la faiblesse du budget.
Monsieur Gouverneur.
Lorsque nous avons un budget de 5 milliards, il n'y a rien qui peut être fait dans le pays. Mmh. Les pays qui nous entourent ont des budgets de 11, 10, 50, 100 milliards, et c'est là où nous devons élever le débat.
Oui.
Pourquoi nous restons à un budget de 5 milliards au lieu d'avoir un budget de 100 milliards?
C'est pas le sujet du jour, hein, la taille du budget national, monsieur le gouverneur. Pour revenir justement à ce qui vous est reproché par la Likoko, il y a même des éléments qui ont été avancés ici par maître Soudi Alimassi, qui vous demande si vous voulez couvrir certains gouverneurs qui peuvent avoir mal utilisé le fonds de la rétrocession donné par le gouvernement central. Il y a d'ailleurs un auditeur qui aborde dans le sens, Guylain Boulambo, qui nous écrit de Bukavu. Il dit, le gouverneur Julien Paluku semble parler de sa propre province, donc le Nord Kivu. Est-ce que vous saurez défendre le Sud Kivu où on ne voit presque rien?
Moi, je ne couvre personne. Je suis comme porte-parole. Je me suis attaqué globalement à celui qui s'est attaqué aussi globalement à l'ensemble des gouverneurs. Je suis d'accord que des commissaires d'enquête descendent. Vous savez, là où la réflexion que les amis sont en train de mener, elle est une réflexion un peu partisane, c'est là où ils pensent que le niveau du détournement qu'ils estiment avoir été fait dans les provinces est tellement criant que c'est les institutions provinciales qui sont en problème. J'ai démontré que les provinces globalement ont reçu 5% en 2007. J'ai dit, la Cour des comptes a produit un rapport partiel, c'est un rapport de l'audit des provinces. La Cour des comptes devait auditer maintenant le gouvernement central. La Cour des comptes devait auditer l'Assemblée nationale. Et c'est à la suite de l'audit du gouvernement central que la Cour des comptes saurait qu'est-ce qui devrait revenir aux provinces et qu'est-ce qui est arrivé aux provinces. Et chacun à ce niveau, on va voir le degré d'utilisation des fonds qui lui sont alloués par la République.
Mmh.
Voilà là où je dis qu'on ne compare pas une donnée.
Mmh.
Normalement, ceux qui savent comparer les chiffres savent qu'on ne compare pas une donnée. On ne peut pas faire une réflexion par rapport aux provinces, on doit faire une réflexion par rapport à un audit qui concerne à la fois le gouvernement central et les provinces, pour qu'on voit le niveau de gestion du gouvernement central, le niveau de gestion des provinces, et on tire une conclusion sur le degré de liberté qu'avait chacun dans la manipulation des chiffres que la République lui a offert. Voilà comment se fait une analyse objective. Le parallèle avec M. Soudi a tendance à faire croire à l'opinion nationale qu'on ne doit que faire des conclusions sur les provinces sans avoir eu de résultats par lesquels les provinces ont eu les moyens. Voilà, nous, ce que nous demandons.
Et donc, pour vous, il faut
un objectif qu'ils comprennent avec moi qu'on ne compare pas une donnée, on compare deux données.
Voilà, il y a un auditeur anonyme, on va terminer par lui. Hein. Il pense que tout ce que nos autorités, gouverneurs des provinces, font en faveur de la population se résume en termes de dons. Ainsi, on ne comprend rien entre ces dons et ce que c'est l'argent du trésor public. Les dons viennent-ils du trésor public ou c'est l'argent sorti de leur propre poste? Donc, vous comprenez, gouverneur Julien Paluku, que là, il y a un sérieux problème de fonctionnement. Je vais vous demander de conclure en 30 secondes, comme ça on va donner à chacun l'occasion justement de conclure.
Oui, je crois que la compréhension de la population, c'est effectivement la faiblesse du budget de l'État. C'est là où nous devons ramener le débat. Il faudrait ouvrir une émission prochainement. Lorsque le budget est faible, il est très très important de souligner que rien ne peut être fait avec les 2 milliards que M. Mpararo a cités. Pour une province qui a la dimension du Rwanda et du Burundi réunis, il dit que nous avons eu 2 milliards et il croit qu'avec 2 milliards de francs congolais de surcroît, on peut faire quoi dans une province qui a l'estimation de deux pays. Je voudrais terminer par dire que si Roger Mpararo de retirer ses propos de diffamation et de dénonciation par calomnie au gouverneur pour le fait que j'ai démontré à travers la loi de 2007 et la loi de 2008, et sous réserve de la volonté des gouverneurs de
poursuivre ce
débat, nous devrions saisir les instances pour que, effectivement, cette diffamation soit examinée, pour que l'image des gouverneurs puisse être présentée officiellement comme des détourneurs à travers la République.
Merci, Julien Paluku. On va vous donner aussi. En tout cas, il n'y a plus beaucoup de temps. 5 secondes. Ça va rouler.
Oui. Le gouverneur semble nous menacer, alors que les preuves sont là. Nous, à la Likoko, nous disons ceci. Les gouverneurs doivent contrôler leur gestion. Étant donné que les assemblées sont à votre, sont vos alliés, nous demandons des audits sur votre gestion.
Merci beaucoup, Maître Sully. On termine par vous, juste un mot.
Merci beaucoup. Je voudrais que le gouverneur de province puisse vraiment s'apaiser. Je sais que l'Alicoco est en train de faire le contrôle citoyen.
Merci beaucoup, Maître
Sully. Je pense que même si nous sommes proches de il doit par contre revenir dans le fonctionnement normal des institutions.
Merci beaucoup. Merci, c'est la fin de cette émission.